Je vais vous parler en fait de l'expérience du cancer et aussi du partage du soin dans le domaine de la cancérologie que je vais aborder sous le prisme des rapports de genre. Même si nous le verrons, je vais aussi m'intéresser à d'autres rapports sociaux qui peuvent intervenir donc dans cette expérience de la maladie et dans la question de la délégation des responsabilités dans les soins. Alors d'abord, quelques mots sur le contexte actuel de la cancérologie. Depuis plusieurs années, les activités médicales se doublent d'un autre enjeu qui est celui de promouvoir la qualité de la vie des patients et des patientes et aussi de personnaliser la prise en charge. Tout en gérant l'incertitude liée à l'évolution de la maladie, qu'il s'agisse d'échecs thérapeutiques, d'apparition de nouveaux symptômes, etc., les professionnels de santé sont amenés à porter une attention particulière à l'expérience subjective des malades et de leurs proches. Ils vont être ainsi amenés à travailler sur des aspects qui, en quelque sorte, débordent le domaine médical, par exemple les conséquences des soins et des traitements sur la vie quotidienne, la gestion de la souffrance physique et psychique, la considération des besoins existentiels des malades et de leurs proches. Et la réalisation de ces différents objectifs suppose que s'établisse une relation de soins attentive aux différentes facettes de la vie des malades. L'autre chose que je voulais dire par rapport au contexte actuel de la cancérologie, c'est qu'on assiste à une réduction des séjours hospitaliers, ce qui fait que les trajectoires de maladie vont se déployer dans des lieux différents et dans différents mondes sociaux, où les malades, mais aussi leurs proches, vont être amenés à gérer la trajectoire de maladie. Donc c'est dans ce contexte que j'ai réalisé une enquête ethnographique dans des services de cancérologie et auprès de services d'hospitalisation à domicile, ce qui m'a donné l'occasion de réaliser des entretiens de longue durée auprès de patients et de patientes atteintes de cancer, de proches et de professionnels, médecins et soignants paramédicaux. Alors le soin ici, tel que j'en parlerai, sera entendu en son sens le plus large. Et là je reprends une définition de Francine Saillant et Éric Gagnon, comme un ensemble de gestes et de paroles répondant à des valeurs et visant le soutien, l'aide, l'accompagnement de personnes fragilisées dans leur corps et leur esprit, donc limitées de manière temporaire ou permanente, dans leur capacité de vivre de manière, entre guillemets, normale ou, entre guillemets, autonome au sein de la collectivité. Alors, je m'intéresse donc ici aux rapports sociaux de genre. Le genre est une notion qui provient de l'anglais gender et qui est apparue dans les années 80. Elle désigne le rôle qui est censé correspondre au sexe biologique. Ici, je ne m'intéresserai pas à la question de la différence des sexes au sens où il existerait des différences naturelles entre hommes et femmes déterminées par leur sexe biologique, mais je m'intéresserai au rapport de genre, c'est-à-dire à l'importance des responsabilités qui sont associées au féminin ou au masculin, assignées par la société et telles qu'elles se construisent et se négocient dans les relations sociales. Je porterai en particulier mon attention sur les relations qui se déploient entre malades, proches et professionnels de santé, en m'intéressant à la question de la délégation des responsabilités dans les activités de soins. Donc, pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord m'intéresser à l'expérience du cancer et à ce que cette expérience peut impliquer dans le quotidien des hommes et des femmes qui en sont affectés. Puis je porterai mon attention sur les attentes des professionnels à l'égard des malades et de leur entourage. Alors, lorsque la maladie prend racine durablement et que l'efficacité des traitements s'avère incertaine, c'est d'abord le rapport au corps, à soi et aux autres, qui se trouve modifié. Les hommes et les femmes que j'ai interviewés ont tous témoigné de cette relation dialectique entre le rapport à soi et aux autres, hein, certaines personnes étant confrontées, par exemple, à des situations stigmatisantes, d'autres se retrouvant limitées dans leur capacité quotidienne, etc., etc. Une autre dimension de l'expérience du cancer est celle de la déstructuration des temporalités et des spatialités de la vie quotidienne. La chronicité de la maladie se caractérise par le fait qu'elle s'installe durablement dans le quotidien des personnes. Elle nécessite un suivi médical qui se prolonge dans le temps, ce qui suppose un réaménagement du quotidien, ne serait-ce que du fait des contraintes temporelles liées à la poursuite des soins et des traitements. Dans leur récit, les personnes témoignent ainsi d'une dépossession du temps pour soi ou pour ses proches, ou au contraire de périodes d'ennui ou d'attente. Il peut aussi s'agir d'une dépossession d'un espace à soi, d'un espace personnel, mais aussi d'un espace de pratique. Dans diverses situations rencontrées par les malades, les frontières entre les espaces intimes, privés et publics peuvent avoir tendance à se brouiller, par exemple dans le contexte d'une longue hospitalisation, ou encore lorsque des soins qualifiés d'intimes vont être assurés par des proches, parfois par ses propres enfants. Enfin, l'expérience de la maladie se caractérise par l'apparition d'un lien durable et parfois indestructible avec le monde médical, qu'il s'agisse des examens à effectuer, des consultations ou des traitements, ces derniers ayant par ailleurs des conséquences négatives sur la vie quotidienne, du fait des effets secondaires, de l'altération de l'apparence corporelle, etc., etc. Même s'il n'y a pas forcément une linéarité du suivi médical, des phases de suivi médical et des phases de retour à la vie ordinaire, ou des phases de rémission et de récidive peuvent se succéder. Cette déstructuration du quotidien porte aussi sur les normes corporelles et le rapport au corps, ceci étant fortement lié à la question du genre. Au cours des entretiens, les femmes ont plus souvent que les hommes exprimé une souffrance liée à l'altération de leur apparence corporelle du fait des traitements, notamment du fait de la perte des cheveux, de l'ablation d'un sein, de la brûlure sur la peau liée à la radiothérapie, du fait de porter une prothèse, etc., etc., en l'associant parfois à une perte de leur féminité ou à une aliénation de leur identité, c'est-à-dire ne plus arriver à se reconnaître, avoir le sentiment d'être étranger à soi. Quand on se voit dans le miroir, c'est à se faire peur, me dit une patiente. Sans les cheveux, ce n'est pas moi, je n'arrive pas à l'accepter. Si les hommes que j'ai rencontrés n'ont pas systématiquement exprimé au cours des entretiens de telles difficultés face à l'image de leur corps, cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'en soient pas affectés. En effet, les rapports de genre qui se déploient dans la relation d'enquête, discussion entre femmes ou entre hommes et femmes, contribuent aussi à favoriser l'émergence de certains récits plutôt que d'autres. Toutefois, au-delà de la question de l'image du corps et de l'apparence corporelle, certains hommes ont pu témoigner de la souffrance de ne plus pouvoir assumer des pratiques qu'ils associent à la virilité, par exemple sur le plan de ce qu'ils estiment être une sexualité normale, ce qui est le cas par exemple de patients souffrant d'impuissance suite à une opération du cancer de la prostate, ou encore en ce qui concerne des pratiques sportives ou de loisirs nécessitant l'usage de la force physique. La diminution de soi liée à la maladie et à son traitement est ainsi associée à une perte de la virilité. Pour ces hommes, dissimuler l'existence de la maladie peut aussi répondre à l'enjeu de se maintenir autant que possible dans la communauté des hommes et d'éviter d'en être exclu. C'est notamment le cas d'un patient, Germain, qui a caché l'existence de son cancer à ses collègues masculins, mais qui, cependant, l'a dévoilé à des collègues femmes, hein, parce qu'il estimait qu'il pouvait donc se confier à ces personnes. L'expérience du cancer et des traitements médicaux provoque une déstructuration de la sensorialité et de la vitalité du corps qui va affecter directement les responsabilités quotidiennes dans lesquelles les malades sont engagés. Par exemple, pour de nombreuses femmes, la modification de l'odorat au moment des traitements de chimiothérapie va désorganiser tout un ensemble d'activités quotidiennes pour lesquelles le sens de l'olfaction s'avère central. La gestion du propre et du sale à la maison, l'hygiène corporelle des enfants, etc. Au-delà des normes corporelles, la déstructuration du quotidien engendrée par la maladie et par les traitements relève ainsi du domaine des sens pratiques et du travail invisible dans lequel les malades sont engagés. Ce qui apparaît significatif du côté des entretiens que j'ai pu mener auprès des patients et des patientes, c'est que les malades sont engagés dans des responsabilités qui se différencient selon le genre et selon le moment du cycle de la vie. Selon qu'il y ait ou pas des enfants à charge, un conjoint âgé et dépendant, etc., etc. L'engagement des femmes dans les activités de care, qu'il s'agisse du soin donné aux conjoints, aux parents, aux enfants, et aussi l'engagement des femmes dans le travail domestique, éducation des enfants, entretien de la maison, etc., s'articule à un travail de gestion de leur propre trajectoire de maladie. Les situations de récidive où des limitations vont s'accentuer et vont rendre d'autant plus difficile cette articulation entre vie quotidienne et gestion de la maladie ont pu apparaître donc dans les témoignages des femmes. Donc je cite un extrait d'entretien que j'ai mené avec Madame L, 49 ans, enseignante et atteinte d'un cancer avancé du sein. Elle me dit... Et au niveau de la famille, c'est plus comme avant quand même, je me sens quand même plus comme un poids par rapport aux autres membres de la famille. Vous êtes dépendante, vous dépendez des autres, de la famille en un sens. Même si ma fille a quand même 23 ans, mais je peux pas l'assister comme avant. Une autre femme, Madame C, 58 ans, femme au foyer, atteinte d'un cancer du sein en récidive, me dit, lorsqu'elle me parle en fait de la première fois où elle a été traitée pour son cancer. C'était très dur à supporter psychologiquement parce que lorsque je me suis retrouvée à l'époque, j'avais 38 ans et j'avais un enfant de 3 ans. Et c'était très difficile dans ma tête parce que je me posais plein de questions de me dire « Est-ce que je vais pouvoir élever mon enfant ? Est-ce que j'aurai assez de temps ?» Toutes ces questions. Maintenant, la chimio, je la prends mieux parce que je suis plus âgée, mes enfants sont élevés, mon époux est à la retraite, c'est très très différent. Alors, pour des femmes comme Madame L, donc la première dont j'ai cité l'extrait d'entretien, qui est enseignante, lorsque les limitations s'accentuent du fait de la fatigue, de la douleur ou encore de la diminution de la vitalité, une nouvelle répartition du travail domestique au sein du groupe familial ne va pas forcément de soi. Par ailleurs, tout en faisant face à la maladie et à son traitement, de nombreuses femmes s'occupent également de la santé d'autres personnes, par exemple d'un conjoint âgé dépendant, d'une voisine ou de leurs enfants. Dans de telles configurations, elles ne sont pas susceptibles de mobiliser des formes de soutien en dépit des recommandations des professionnels qui leur disent « Parlez-en à vos proches, ils sont là pour vous aider. » En résumé, des contraintes spécifiques liées au travail domestique et au travail de care tendent à orienter la façon dont les patientes contrôlent au quotidien les conséquences de la maladie et des traitements. Ces contraintes ont des effets sur les formes de soutien que ces femmes sont susceptibles de mobiliser. Mais plus largement, si les rapports de genre interviennent dans la manière de vivre avec la maladie, ils sont également présents dans les attentes que les professionnels de santé entretiennent à l'égard des malades et de leurs proches. En s'adressant de façon prioritaire aux femmes, jugées plus compétentes et disponibles que les hommes pour effectuer le travail de care, les professionnels du soin tendent à accentuer les contraintes auxquelles ces dernières se confrontent. Donc j'en viens à la question des rapports de genre dans le monde médical et dans la répartition des activités de soins. Donc l'analyse des entretiens que j'ai menés auprès de médecins et de soignants, soignantes, ainsi que des observations que j'ai pu réaliser dans les services de cancérologie, m'a permis de souligner un certain nombre d'attentes des professionnels quant aux conduites des malades et de leur entourage dans le travail de soins. Plusieurs dimensions sont concernées par l'attention des professionnels. Le rapport des patients et des patientes à la maladie et au traitement, la façon dont les malades et leurs proches participent à la prise en charge proposée, les usages qu'ils font des lieux de soins. Les soignants vont accorder une attention toute particulière aux conduites émotionnelles du patient et aux conduites émotionnelles de ses proches au cours de l'hospitalisation. Les professionnels considèrent que les femmes sont généralement beaucoup plus soucieuses que les hommes de leur image corporelle, qu'elles sont plus disposées à se confier que leurs homologues masculins et qu'elles expriment avec une plus grande facilité leurs émotions et leurs ressentis, qu'il s'agisse de l'expression de la souffrance, de la honte ou de la tristesse. Dans les soins de support, les patientes hospitalisées se voient systématiquement proposer les services d'une socio-esthéticienne, une professionnelle qui propose des massages et des soins esthétiques, où elle bénéficie de conseils des soignantes pour pallier aux conséquences esthétiques de la maladie et des traitements, ce qui est beaucoup plus rare pour les hommes, à moins que ces derniers n'en formulent explicitement la demande. La coquetterie des femmes et le fait qu'elles prennent soin de leur corps est encouragée et valorisée dans les lieux de soins. Ces conduites sont considérées comme un effort des patientes pour reprendre possession de leur corps et pour maîtriser leur situation de maladie. À l'inverse, la négligence, entre guillemets, de certaines patientes vis-à-vis de leur santé et le manque d'attention portée à leur corps est considéré comme une conduite déviante qui amène les professionnels à les orienter vers une prise en charge psychologique ou psychiatrique. Donc je vais vous lire l'extrait de mon journal de terrain lors d'une réunion dans la salle de relais. Donc c'est à propos d'une patiente âgée de 63 ans qui est enseignante et qui est atteinte donc d'un cancer avancé du sein, un cancer dit négligé puisque lorsqu'elle a été hospitalisée pour la première fois, son cancer était très 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 évolué. Donc une infirmière dit: c'est la maman d'une cadre infirmière, à propos de la patiente. Elle a 63 ans, c'est un sein négligé. Ils ont fait l'autruche, elle et son mari. Il est là tous les jours. Il n'avait plus de relation intime ou quoi? Il n'a jamais vu sa femme s'habiller? Une autre infirmière ajoute: pourtant, c'est pas des gens à bas étage. L'infirmière lui répond: lorsque je l'ai vu arriver, c'était à vomir, il y avait des asticots, tout le monde en avait des hauts le cœur. Donc ces cas de cancer du sein négligés font ainsi l'objet de nombreuses interrogations dans les équipes de soins. Dans l'extrait présenté, les interrogations des infirmières portent sur la qualité des relations conjugales. Comment le conjoint a-t-il pu rester étranger à la dégradation corporelle et ne pas alerter la patiente de la nécessité de consulter ? L'étiquetage de la déviance est d'autant plus présent lorsque les patientes sont jeunes et ou issues d'un milieu social qui va être perçu par les soignantes comme étant un milieu privilégié. La déviance est d'autant plus désignée que l'apparence corporelle de la patiente suscite l'horreur et le dégoût, engendrant pour les professionnels une pénibilité au moment des soins. Les interprétations données par les professionnels à ce type de conduite sont le plus souvent d'ordre psychologique. Elles sont associées, par exemple, à un déni de la maladie ou bien à une attitude psychologique non combative. Toutefois, j'ai pu remarquer que lorsqu'une relation de proximité s'établit avec la patiente du fait d'une hospitalisation au long cours, les professionnels peuvent être conduits à prendre en considération les circonstances familiales qui auraient pu favoriser une attitude non responsable de ces femmes à l'égard de leur propre santé. par exemple, en considérant qu'il y a eu récemment le décès d'un proche également atteint d'un cancer, que cette femme a plusieurs enfants à charge, que son conjoint est en situation de handicap, etc. Du point de vue des professionnels, les patients et les patientes ne disposent pas de la même connaissance du monde hospitalier. Cette représentation est plus particulièrement soulignée par les soignantes, qui considèrent que les femmes sont davantage familiarisées que les hommes au lieu médicalisé, de par leur expérience passée de séjour à la maternité. Les femmes connaissent mieux l'hôpital que les hommes. Nous, il y a eu l'accouchement, souligne une infirmière lors d'un entretien. En règle générale, une plus grande capacité d'adaptation au monde hospitalier est attendue de leur part. Par ailleurs, si elles sont perçues comme étant mieux disposées que les hommes à prendre soin de leur corps, il en est de même pour le soin donné à l'espace de la chambre. Le respect et la propreté des lieux, le fait qu'elles rangent leurs affaires personnelles ou encore des éléments décoratifs qu'elles pourraient mettre dans la chambre. En ce qui concerne l'entourage des malades, les femmes sont souvent considérées par les professionnels comme étant plus disposées que les hommes à participer aux soins, qu'il s'agisse de surveiller le corps malade, de surveiller les symptômes, d'assurer des gestes techniques, par exemple changer une poche, faire un pansement ou même masser, que ce soit à l'hôpital ou bien dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Les femmes sont aussi considérées comme étant plus disposées à procurer du soutien affectif, en termes de qualité d'écoute, douceur, etc., etc., mais aussi à communiquer aux professionnels les difficultés qu'elles rencontrent. Elles auraient une aptitude à la confidence, à partager leurs ressentis, etc. En ce sens, elles sont souvent les premières interlocutrices des soignantes et des médecins pour assurer une partie du travail de care à l'hôpital ou pour préparer un retour à domicile. Dans certaines situations, les professionnels vont s'efforcer de maintenir à distance certaines femmes dans les activités d'aide et de soins. Il s'agit par exemple de situations où de jeunes patients sont hospitalisés. Du point de vue des professionnels, il est à craindre que les mères de ces patients s'engagent plus qu'il ne faudrait dans les activités de soins et deviennent envahissantes, ce qui empêcherait les professionnels de travailler dans des conditions optimales. Enfin, l'engagement des femmes, mais plus généralement des proches dans les soins, lorsqu'elle tend à s'écarter des conceptions professionnelles du soin, peut poser problème à l'équipe, notamment lorsque cet engagement peut porter atteinte aux conceptions professionnelles de l'autonomie du malade ou de sa dignité. Certaines femmes peuvent être désignées par des soignants comme abusant de leur pouvoir vis-à-vis d'un patient considéré comme vulnérable. Donc là, je cite un extrait d'entretien que j'ai réalisé donc avec Amandine, 47 ans, qui est aide-soignante. Moi, je vais te dire un truc, mais ça n'engage que moi. Je trouve que des femmes soumises par le passé deviennent assez abusives. Elles abusent de leur pouvoir. Elles disent « tu mettras le pyjama bleu, tu vas manger ça ». C'est un truc que moi, je fais jamais. Je montre toujours la pile de pyjama et je demande qu'ils choisissent. Elles ne sont plus coopérantes, elles sont pète-couilles. Là, elles sont épouses d'un grand malade, ça leur fait un nouveau statut. Mais ça dépend des communautés. Les Nord-Africains, ça arrive tout le temps et elles l'ont toujours fait. On pourrait ici s'attarder sur cet extrait d'entretien qui s'avère intéressant à plusieurs niveaux parce qu'il montre bien que dans la relation entre professionnels et non-professionnels, les rapports de genre ne sont jamais isolés d'autres rapports sociaux, qu'ils soient liés au milieu social, à l'appartenance générationnelle ou encore à l'origine ethnique réelle ou supposée. Les attentes et jugements associés au genre peuvent ainsi se combiner à d'autres attentes ou jugements liés au milieu social ou à l'origine ethnique, tels qu'ils peuvent être perçus par les professionnels. Afin de vous montrer comment les postures relationnelles adoptées par les professionnels vis-à-vis des malades et de leur entourage sont amenées à varier au cours de l'hospitalisation et au cours des trajectoires de maladie, je vais à présent présenter deux études de cas et procéder à leur mise en perspective. Donc il s'agit là des trajectoires de deux patientes qui sont hospitalisées dans un service de soins continus, soins palliatifs, dans un même service. Alors cette mise en perspective, elle va me permettre de souligner les composantes morales du travail relationnel des professionnels et aussi leurs effets sur la délégation des responsabilités dans le travail de care. Alors la première étude de cas que je vais vous présenter, elle concerne Karine, une patiente âgée de 18 ans, qui est étudiante en histoire de l'art et qui est atteinte d'un cancer avancé du rein. Karine, c'est une patiente atteinte d'un cancer du rein métastasé. Elle a été hospitalisée pour prise en charge globale de la douleur dans ce service de cancérologie. Sa maladie a été diagnostiquée il y a 9 mois. Elle a été suivie par un oncologue de l'établissement qui va relever que la patiente, au moment de son hospitalisation, est, je le cite, beaucoup moins bien, amaigrie, avec des mycoses et qu'elle est de plus en plus douloureuse. Les résultats d'examen vont attester que le pronostic n'est pas bon du tout. Dès son arrivée dans le service, Karine va annoncer à l'équipe médicale qu'elle souhaite rentrer chez elle sous 48 heures. Elle est accompagnée de son père et d'une amie de la famille, Patricia, qui est médecin de profession et qui va être désignée par l'équipe en tant que maman de substitution de Karine. La mère de Karine, en effet, est décédée d'un cancer du sein lorsque la patiente était âgée de 6 ans. Le père de Karine, quant à lui, est atteint d'un cancer de la prostate. Afin de répondre aux souhaits de la patiente qui souhaite rentrer chez elle et de faire face à une situation qui apparaît complexe aux yeux des professionnels, l'équipe va proposer à Karine une hospitalisation à domicile. Au cours de la réunion, qui va rassembler donc des professionnels de l'équipe et les médecins du service de l'hospitalisation à domicile, l'ensemble des professionnels donc vont confronter leurs points de vue et débattre des besoins de cette patiente. La médecin du service de cancérologie, puisqu'il s'agit d'une femme, considère que Karine est très au clair sur ce qu'elle veut ou pas. D'après cette médecin, Karine dispose d'une capacité à comprendre sa situation de maladie qui prend appui sur ses sensations corporelles. Elle souligne, Karine se base sur ses sensations, elle, les résultats d'examen, ça ne l'intéresse pas. Le projet de l'équipe va être de s'adapter totalement, va être de s'adapter totalement à ce que Karine veut ou peut faire, avec le soutien de ses proches, et plus particulièrement de sa maman de substitution. Donc, cette amie de la famille, Patricia, est qualifiée de très aidante par les femmes médecins de l'équipe, en particulier sur le plan du soutien affectif. Donc, je cite la médecin qui précise « Karine a une relation assez intime avec elle. Elle dit qu'elle a une relation forte féminine qui l'étonne elle-même beaucoup. Patricia fait avec elle de la sophrologie, elle l'amasse. » Au contraire, pour un des médecins du service d'hospitalisation à domicile, un homme, Patricia est au contraire considérée comme un obstacle dans le travail de soins. Donc ce médecin dit pendant la réunion « Moi, je suis très très inquiet au niveau de la toxicité de la compagne du papa. Je trouve qu'elle est extrêmement toxique. Elle s'est appropriée la maladie de la gamine. Elle s'est totalement appropriée la gamine. Ça fait un peu gourou. Le père n'a pas son mot à dire. » Les propos de ce médecin renvoient à un modèle de protection de la patiente, considérée en tant que sujet vulnérable aux prises d'un des membres de l'entourage. Cette situation de divergence entre les deux médecins, d'un côté une femme qui souligne de manière positive les conduites de la maman de substitution de la patiente, et de l'autre un homme qualifiant cette dernière de toxique, et comme une entrave à la relation fille-père, va conduire à un débat de trajectoire au sein duquel les besoins de Karine sont mis en discussion. Différents arguments sont convoqués par la médecin du service pour contester le point de vue de son collègue. D'abord, le souci professionnel de ne pas juger de la place occupée par un proche. Elle dit « Je ne sais pas si nous, on peut juger de la place de cette femme ». Ensuite, l'identification d'une incapacité du père à réparer l'absence de la mère et à donner à Karine toute l'affection féminine dont elle a besoin. Je pense que l'amie, c'est bien qu'elle soit là pour le mari, parce qu'elle remplit un rôle que lui ne peut pas remplir. Cette conception d'un sujet de soin à la fois sensible et éprouvé par la maladie, et dont les liens familiaux apparaissent aux yeux des soignants comme étant déstructurés, va être remis en question la semaine suivante. Karine va être, suite à son retour à domicile, va être à nouveau hospitalisée et elle va demander davantage de soins et de traitements aux professionnels. Face à ce nouveau positionnement de la patiente, les médecins du service vont mettre en œuvre un travail relationnel de protection en voilant les informations médicales et la question du pronostic à Karine. Donc la médecin du service se précise au cours d'une réunion. Elle a redébuté un traitement lundi. Elle est de plus en plus gênée au niveau respiratoire. Son père a vu le psychiatre de l'établissement Y, donc c'est un CHU, et je pense que c'est bien parce qu'ici, il est entouré de femmes de partout. Hier, elle m'a montré des petits nodules sur le ventre. Elle m'a demandé ce que c'était. Je vous avoue que j'ai pas répondu. J'ai dit, on verra plus tard. C'est vrai qu'elle a débuté un nouveau traitement. Elle avait besoin psychologiquement de ce traitement, et puis nous aussi. Je t'avoue que c'est difficile de lui dire, on arrête tout. Sa maigreur est impressionnante. On a l'impression qu'elle perd un peu tous les jours. Pour le moment, elle ne veut pas sortir. Ici, le voilement de la présence de métastases cutanées sur l'abdomen de la patiente est non seulement présenté comme une tactique de protection vis-à-vis du pronostic et vis-à-vis d'un pronostic sombre, mais également comme une manière de protéger les professionnels de leurs propres difficultés morales ou tout du moins de leur laisser le temps de se préparer à une autre étape de l'accompagnement, qui est celui de la trajectoire du mourir. Dans ce cas précis, la mise en place d'une chimiothérapie est un dispositif qui ne répond pas uniquement aux besoins psychologiques de la patiente. Il va permettre aux professionnels de faire comme si, dans les interactions de soins, voire dans les interactions entre collègues, tout en fournissant un cadre temporel à même de faciliter un réaménagement de l'accompagnement. Par exemple, ça va donner du temps aux professionnels pour accuser le coup et ainsi pour passer de l'encouragement de la patiente à l'écoute de sa tristesse. Il apparaît bien dans cette étude de cas que le travail relationnel, irréductible à l'évolution de la maladie et à la mise en place des traitements, répond également aux critères de la distance affective au malade. Dans le cas de Karine, une proximité affective est sans doute favorisée par le fait que la patiente a été suivie pendant plusieurs mois et au cours d'hospitalisations successives par l'équipe du service, mais également du fait de son jeune âge qui va engendrer, de la part des professionnels, un engagement émotionnel plus important que pour d'autres patients. Les soignants de l'équipe sont en effet unanimes sur l'injustice de la situation de Karine et vont s'accorder sur le fait de s'adapter totalement à ce que la patiente veut ou peut faire. Or, une relation personnalisante et soucieuse de répondre aux inquiétudes de Karine a été possible jusqu'à ce qu'une volonté de savoir de cette patiente s'exprime davantage et engendre, dans un contexte de mise en place d'une chimiothérapie et d'évolution rapide de la maladie, une difficulté des professionnels à poursuivre le travail relationnel engagé. Il s'agit bien d'un contexte pour lequel ce que Karine veut savoir a été minimisé au regard de ce que Karine peut entendre, mais aussi au regard de ce que l'équipe peut dire. Cependant, face à de nouvelles interrogations de Karine, quelques jours plus tard, la médecin du service va être amenée à lui dévoiler la gravité de sa situation de maladie et ce faisant à remobiliser le modèle de la personnalisation. Donc au détour d'un couloir, deux médecins discutent. Le premier demande comment va Karine et la médecin du service lui répond avec une expression de tristesse. C'est très difficile sur le plan respiration et douleur. Elle m'a dit, c'est si grave que ça. Je lui ai dit oui. Donc j'en viens à présent à la seconde étude de cas qui concerne Madame M, âgée de 81 ans, qui est femme de ménage et qui atteint un cancer avancé du péritoine. Donc cette seconde étude de cas permet également de souligner les dynamiques du travail relationnel dans les trajectoires de cancer et les trajectoires du mourir. Madame M est une patiente âgée de 81 ans. Elle a exercé au cours de sa vie différents petits boulots, dont celui de femme de ménage. Elle est veuve et elle a une fille de 57 ans qui est institutrice. Elle est atteinte d'un cancer avancé du péritoine, il s'agit donc d'un cancer digestif, diagnostiqué il y a 4 ans, peu de temps après le décès de son époux. Elle a été hospitalisée pour altération de l'état général et prise en charge globale de la douleur dans le même service, donc dans ce service de cancérologie qui dispose de lits identifiés soins palliatifs. Comme Karine, c'est au sein de ce même établissement que Madame M a été suivie tout au long de sa trajectoire du cancer. À son entrée dans le service, elle va être placée en chambre double et étiquetée par l'équipe soins palliatifs. Étiquetée soins palliatifs, ça signifie que son espérance de vie est estimée à moins de 3 mois. Au cours des transmissions, les soignants de l'équipe vont la désigner comme une petite mamie mignonne, souriante, discrète, qui s'excuse tout le temps lorsqu'elle demande quelque chose. Au bout de 4 jours d'hospitalisation, à la suite d'une entrevue avec cette patiente, la médecin du service va noter dans son dossier de soins « avait déjà préparé ses obsèques, se sent assez sereine si les choses devaient se compliquer, mais ne peut pas tellement parler à sa fille qui est très inquiète. » Le lendemain, cette médecin note à nouveau « comprend bien que les choses ne vont pas aller en s'améliorant » et le dit en souriant, sans s'apesantir. Cette patiente va être considérée par la médecin comme étant éprouvée par la maladie, mais en même temps comme disposant d'une certaine lucidité vis-à-vis de sa situation de maladie, c'est-à-dire d'une maladie évolutive qui engage irrémédiablement une dégradation de l'état de santé. La patiente va être hospitalisée depuis 2 semaines lorsque cette médecin va noter dans son dossier de soins dort toujours beaucoup et s'en trouve bien, mais inquiète d'être si épuisée, ne comprend pas que la situation continue de s'aggraver. A du mal à accepter la réalité de la progression maladive. Je lui dis à plusieurs reprises que nous partageons ses inquiétudes, mais elle ne va pas plus loin. Donc cette patiente, considérée dans un premier temps comme disposant d'une capacité à comprendre la situation et à l'accepter, se positionne différemment, puisqu'elle exprime une incompréhension de sa situation, ceci en dépit du travail relationnel mis en œuvre. Dans le cas présenté, il s'agit du partage de l'inquiétude et de la quête de la confidence qui pourrait permettre à cette patiente de réaliser par elle-même sa situation et de la verbaliser. Donc on pourrait supposer que ce nouveau positionnement de la patiente, hein, l'expression d'une incompréhension, d'une impuissance, conduirait les professionnels à mobiliser un autre type de travail relationnel, à l'ajuster, par exemple en protégeant cette patiente des informations médicales, médicales. Cependant, l'implication de la fille de la patiente, qui est donc institutrice, âgée de 57 ans, dans la trajectoire de sa mère et la façon dont les professionnels vont l'appréhender va contribuer à un blocage du travail relationnel. Donc la médecin du service va noter dans le dossier de la patiente « fille très inquiète de voir sa maman se dégrader si vite, dit bien avoir un gros sac à vider et ok pour voir psy ». Donc, elle précise, gros passé dépressif et sous antidépresseur depuis des années. A beaucoup de mal à aborder avec sa maman la gravité de la maladie et a beaucoup de choses à lui dire. Il y a bien là la qualification d'une vulnérabilité psychique de la fille de la patiente qui va conduire la médecin à poursuivre un travail auprès de la patiente afin que cette dernière soit même de soutenir sa fille en communiquant une conscience ouverte du pronostic, comme cette médecin va le souligner au cours d'une réunion de l'équipe. Sa fille souffre beaucoup de ne pas pouvoir lui dire qu'elle est très inquiète pour la suite, et c'est très douloureux. Elle a eu de gros soucis de dépression. Ça serait bien que Madame M comprenne ça et puisse s'ouvrir. Pour la fille, c'est une sacrée souffrance. Les voisins sont venus la voir. Madame M a proposé à sa fille de faire un repas avec eux quand elle sortira. Et après, la fille était effondrée. La patiente va apparaître aux yeux des professionnels de plus en plus triste. Et en dépit du travail relationnel mis en œuvre et des relances de cette médecin, elle ne va pas répondre à leurs sollicitations, comme le souligne donc la médecin au cours d'une réunion. Peut-être que ça va venir. J'ai beau aborder le problème de tous les côtés, elle ne s'ouvre pas. Même quand je parle de sa fille, ça n'enclenche pas. Elle dit tout ça c'est nouveau, les explications qu'on lui donne, ça marche pas. Comme on peut le constater, cette étude de cas rend compte d'attentes professionnelles à l'égard de Madame M qui apparaissent fortement contrastées par rapport à celles qui se sont déployées vis-à-vis de Karine. Tout d'abord, il est possible de repérer la désignation d'une lucidité de Madame M à l'égard du pronostic, et ce, dès le début de son hospitalisation. Or, on peut se demander si cette lucidité n'a pas été présumée par l'équipe médicale, en particulier dans une situation où la patiente s'est montrée discrète, entre guillemets, s'est montrée peu engagée à lui poser des questions ou à contredire ses propos. Des attentes en termes de verbalisation du rapport à la maladie et à la mort vont ensuite peser sur Madame M, en particulier du fait de la présence de sa fille et de la façon dont les professionnels vont qualifier ses besoins psychologiques. Ainsi, dans le cas de Madame M, une forte capacité d'action est attendue de la patiente par les professionnels, tandis que dans celui de Karine, la définition des capacités d'action fait l'objet d'une plus grande négociation entre les médecins et entre les soignants. Effectivement, si la gestion de la trajectoire de Madame M s'effectue uniquement dans un service de cancérologie, celle de Karine se déploie dans une pluralité de lieux, entre le domicile et l'hôpital, et implique d'autres professionnels, ce qui va contribuer à redéfinir ses besoins et ses capacités d'action. L'appartenance générationnelle des patientes n'est pas la même, ce qui contribue aussi à différencier les attentes des soignants. Ainsi, tandis que la situation de Madame M est qualifiée de normale par les professionnels, celle de Karine est considérée comme étant complexe et injuste, notamment du fait de son jeune âge. Cette qualification va se répercuter sur la façon dont les professionnels vont appréhender les relations entre les patientes et leurs proches. Il est attendu de la part de Madame M qu'elle soutienne sa fille en lui permettant de vider son sac en quelque sorte, tandis que ces mêmes attentes vont être reportées sur la maman de substitution de Karine. À ce titre, il est important de souligner que les rapports de genre et de génération interfère dans la façon dont le travail d'aide et de soutien, ou le travail de care, est délégué aux patientes et à leurs proches. Donc pour conclure ma présentation, après un siècle de médicalisation et une croissance de la puissance de la biomédecine et des systèmes de santé, on assiste à un épuisement de ces mêmes institutions, tant sur le plan budgétaire que sur le plan organisationnel. Dans ce contexte, le soin est en partie relégué à la sphère individuelle et domestique, et plus particulièrement aux compétences relationnelles et compassionnelles des femmes. L'intimisation des soins et l'humanisation de la médecine dans le domaine de la cancérologie impliquent, que ce soit par idéologie ou bien par injonction, l'engagement des femmes dans le travail de soins. Pour les professionnels de santé, encadrer la participation des malades et de leur entourage à la prise en charge proposée, si elle constitue tout un ensemble d'actions, communiquer avec les malades, rencontrer les familles, discuter avec elles, les former à l'accompagnement, comporte aussi une dimension morale et normative, puisqu'il s'agit aussi de reconnaître et d'évaluer les compétences des aidants naturels. Les femmes de l'entourage sont souvent désignées par les professionnels comme étant plus compétentes que les hommes pour assurer la poursuite de la prise en charge à domicile. Elles sont généralement les premières interlocutrices de ces professionnels car, pour reprendre de nombreux travaux comme ceux de Geneviève Cresson ou de Francine Saillant, la féminisation des responsabilités en matière de care n'est pas seulement promue par les politiques de santé, elle est aussi supportée par les femmes elles-mêmes qui s'engagent plus souvent dans les activités de soins et d'accompagnement. Mais cet engagement ne va pas de soi et pèse lourdement sur certaines d'entre elles, qu'elles soient patientes ou proches de malades, lorsqu'il s'agit par exemple de se maintenir dans une activité professionnelle tout en assumant un travail de care, ou encore lorsqu'il s'agit de faire face à sa propre maladie tout en s'occupant d'un parent âgé ou d'un proche. Les milieux féministes, tout en ayant souligné les effets délétères de l'institution médicale et des techniques médicales, ont proposé de résister à ce déplacement des responsabilités, alors que dans la sphère domestique, en dépit des restrictions, de la charge affective et du temps que cela demande, les femmes dans leur ensemble ont tendance à s'engager dans la prise en charge de la maladie ou de la dépendance d'un proche, sur le plan du soutien, de l'aide ou des soins. Lorsque ce ne sont pas les professionnels qui œuvrent aux activités de soins et d'accompagnement, ce sont ces individus que l'on regroupe sous le terme de famille et qui le plus souvent sont des femmes. Toutefois, cette implication dans l'aide et dans les soins informels n'est pas homogène. Elle peut s'opérer sous des registres très différents, correspondant par exemple à un don d'amour, correspondant parfois à une obligation morale ou encore à un échange de services, selon les contextes de sa mise en œuvre et aussi selon la distance sociale en termes d'appartenance générationnelle, de lien de filiation, etc., entre aidantes et aidées, que de nombreuses recherches ont également mis en évidence. Mais on a pu observer aussi que des résistances de certaines patientes peuvent se déployer, comme l'a montré la trajectoire et cette étude de cas de cette patiente âgée de 81 ans, Madame M, qui jusqu'au bout a résisté aux attentes des médecins qui pesaient sur elle. Pour le dire autrement, aux valeurs des professionnels de santé s'ajoutent celles des malades pour lesquelles contrôler la maladie consiste aussi à défendre des valeurs personnelles comme celle, par exemple, de souffrir en silence pour préserver ses proches du malheur. Merci. Merci.